Bonjour mesdames et messieurs, un grand plaisir cet après-midi de recevoir Metin Arditi, Christophe Donner, Étienne Barillet. Les histoires de l'histoire, c'est le titre de cette rencontre, tu me posais la question tout à l'heure. Les histoires de l'histoire. Alors, on commence par ordre alphabétique. Metin Arditi, écrivain suisse d'origine turque, pour reprendre la terminologie pour ceux qui étaient là tout à l'heure avec Samuel Benchetrit. Et M. Ben Salah, qui est un écrivain tunisien d'origine suisse, ou l'inverse, pardon. c'est peut-être un sujet, d'ailleurs, l'identité. Auteur d'essais et de romans, parmi lesquels Le Turchetto, Acte Sud, 2012, prix Giono, prix Page des libraires, prix Culture et Bibliothèque pour tous. Les prix, ce serait un autre sujet. Juliette dans son bain, La confrérie des moines volants, Juliette dans son bain, L'enfant qui mesurait le monde en 2016, prix Méditerranée, Mon père sur les épaules 2017, que je vous recommande à titre personnel. Envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel, il accomplit de fréquents voyages en Israël et en Palestine, en Turquie et en Arménie. Il tient chaque lundi la chronique dernière page de La Croix, c'est toujours actuel, c'est vrai.
Ça continue demain.
Voilà.
Voilà, après les vacances.
Telle est la notice du site lelivresurlesquais.ch. Je voudrais y ajouter au minimum La chambre de Vincent et Dernière lettre à Théo aux éditions Zoé. Ce sont des ouvrages plus anciens que je trouve toujours excellents. Voilà. Je vous recommande la chambre de Vincent et La dernière lettre à Théo aux éditions Zoé.
Dernière lettre à Théo, c'est aux éditions Actes Sud.
Actes Sud, pardon. Mais le premier, c'est Zoé. Parce que Metin Arditi a eu plusieurs éditeurs. Étienne Barillet, dans Khartoum assiégé, chez Phébus. Essayiste, romancier, on peut citer Ruiz doit mourir, Buchet-Chastel 2014, et Les cheveux de Lucrèce, Buchet-Chastel 2015. Traducteur, ses nombreux essais témoignent de son engagement dans les débats d'idées de notre temps contre le nouvel obscurantisme, nous autres civilisations, que savons-nous du monde ? Telle est aussi la notice du site Le Livre sur les quais. Ajoutez au minimum Le Chien Tristan, Prague, Le Dixième Ciel, parmi sa quasi-trentaine de romans, et parmi ses 25 essais, les deux derniers, Exil et musique, qui vient de sortir, et Léonard Euler, un volume de la collection Savoir Suisse, au sous-titre particulièrement pertinent, La clarté de l'esprit. Christophe Donner, Au clair de la lune, Grasset. Christophe Donner, un écrivain, journaliste, critique littéraire et cinéaste. Quel dommage que vous n'étiez pas là tout à l'heure, parce qu'on avait un cinéaste et romancier, avec Samuel Benchetrit. Le romancier a 35 titres à son actif, tout comme l'auteur de livres pour la jeunesse. Le cinéaste et documentariste, une dizaine de titres. On ne citera pour ses débuts dans les années 80 que Petit Joseph et M'en fout la mort. Ensuite, Ainsi va le jeune loup au sang, couronné en 2003 du prix Jean Frestier, Un roi sans lendemain 2007 et 2014. Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive. Donc c'est un homme lucide. Alors, les histoires de l'histoire, c'est très hétéroclite ce que nous avons aujourd'hui comme livre, parce que Au clair de la lune, c'est l'histoire de Nicéphore Niépce
et de Scott de Martinville.
Et de Scott de Martinville.
Pour oublier le coup.
On peut pas les dissocier. Voilà. Voilà. Donc une découverte scientifique qui pourrait devenir une découverte industrielle et qui échoue, qui leur échappe.
Voilà, c'est ça, qui leur échappe.
Donc, une histoire vraie.
Non, ça échoue pas du tout, parce que ils sont à la base de l'invention du cinéma.
Mais ça leur est pas reconnu. Voilà. On les a oubliés largement. Donc, une histoire vraie.
Ah oui, tout à fait. Une histoire historique.
Des personnages réels. Dans Khartoum assiégé, d'Étienne Barillet, nous avons un général et quelques personnages attestés sur lesquels on sait des choses. Et ensuite, tu démarres dans un roman où tu remplis les vides et tu recrées un monde. En fait, tu le recrées. Et puis, Carnaval Noir, le cadre est historique, mais fictif.
Les événements sont fictifs.
Voilà.
Voilà.
Ouais. Les événements sont fictifs, les personnages...
La plupart sont voilà. fictifs.
Donc l'histoire comme cadre, et dans votre cas l'histoire comme contenu, et dans ton cas aussi, mais avec des libertés. Donc c'est la question, comment est-ce qu'on empoigne ces sujets? Pourquoi est-ce qu'on prend un sujet historique plutôt pour faire de la fiction plutôt que de créer des personnages de toutes pièces? Alors je vais commencer avec vous, Christophe Denner. Comment êtes-vous tombé sur ces deux hommes, aujourd'hui largement oubliés?
Ben oui, c'est un jeu de piste en fait, parce que bon, j'étais commissaire d'exposition d'une exposition d'art sur la représentation du galop dans la peinture. Et donc au XIXe siècle, et notamment l'histoire du galop volant, qui a été une grande histoire, une grande aventure au cours du XIXe siècle. Et donc je suis tombé sur ce qui a effondré la représentation du cheval au galop, qui est l'arrivée de la photographie, enfin plus précisément l'arrivée de Muybridge, qui a décomposé le mouvement du cheval et montré que toutes les représentations du cheval par les peintres, les sculpteurs, etc., depuis la nuit des temps, étaient fausses, d'un point de vue cinématographique en tout cas. Et donc ça m'a posé la question ça pose la question de la représentation du réel par les artistes, d'une manière générale, par les écrivains aussi. Mais dans le cas précis de la photographie, en tombant sur Muybridge, je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré Edison, parce que j'ai découvert que Edison, l'inventeur du phonographe, avait rencontré Muybridge, l'inventeur du mouvement, si on peut dire, le pré-inventeur du cinéma, et que tous les deux avaient eu le projet de faire d'un cinéma parlant, mais ça s'est pas fait. Et en tombant sur Edison, je suis tombé sur le phonographe. Et le phonographe, je me suis rendu compte que Edison ne l'avait pas inventé, que celui qui avait inventé le phonographe, c'était un homme qui avait inventé avant le phonautographe, qui était français, excusez-moi pour la Suisse, et qui a eu un destin extraordinaire. C'était un petit-fils d'aristocrate d'origine écossaise, comme son nom l'indique un peu, et dont le grand-père donc avait inventé aussi, c'est toute une généalogie comme ça d'inventeurs, avait inventé le ballon dirigeable. Les ballons existaient, évidemment, mais lui, il avait inventé un système qui ne sera repris que 50 ans plus tard, encore une injustice de l'histoire. Et il avait inventé donc un système pour rendre les ballons dirigeables. Malheureusement, il l'avait inventé en 1789. Et donc, tous les crédits qu'il avait réussi à obtenir se sont effondrés. Et donc, cette famille ruinée, ils sont devenus le fils de cet inventeur, ce premier inventeur. Ils sont devenus typographes, c'était l'industrie en vogue à l'époque, il faut se représenter qu'il y avait 1 500 000 personnes qui travaillaient dans le livre en général à Paris. C'est énorme, c'est plus qu'aujourd'hui l'industrie de la voiture et choses comme ça. Et tout, c'était vraiment une explosion au niveau du travail. Et donc ils sont retrouvés typographes et avec cette obsession du père de Scott de Martinville, de sténographie, c'est-à-dire de retranscrire la parole aussi vite, le plus vite possible. Et il n'y arrivait pas, il y avait plein de méthodes différentes pour essayer de trouver les signes plus ou moins kabbalistiques et capables d'être écrits et de retranscrire la parole le plus vite possible. Et en fait, c'est son fils qui a trouvé le système pour rendre pour transcrire la parole, non pas seulement plus vite, mais automatiquement et même sans la main de l'homme, avec un système, un appareil très très simple en fait. On se demande pourquoi il n'a pas été inventé avant, qui est simplement de lâcher le son sur une petite aiguille qui vibre, et cette vibration est inscrite sur un rouleau contenant un papier imbibé de noir de fumée, et donc on a la trace de cette vibration. À partir de cette trace fixée, on a la transcription du son et la transcription de la voix, qui est toujours la même si le son est toujours le même. Et c'est à partir de là qu'on invente le phonographe, mais lui n'avait pas inventé le phonographe. Il a juste inventé le premier mouvement de l'appareil. Et il n'a pas inventé le retour. Et donc, c'était un truc mystérieux. Pourquoi quelqu'un qui est si proche de la gloire, finalement, d'inventer le phonographe, s'arrête au milieu et n'invente que la moitié du système. Et quand le système arrive 20 ans après lui, c'est-à-dire quand Edison arrive à Paris pour faire ses démonstrations de phonographe, il déclare que ça n'a aucun intérêt, que c'est un gadget sans avenir, que l'important c'est de retranscrire le son et d'avoir la mémoire visuelle, graphique du son et de la voix notamment. Et il avait bien raison, c'est-à-dire que l'important c'est vraiment ça, puisque 150 ans plus tard, ces gravures qui étaient restées muettes à la Société d'encouragement de l'industrie à Paris, des ingénieurs informaticiens américains les ont numérisées et les ont transformées en voix réelle. Et 150 ans après, on entend, vous pouvez aller sur le net, vous les trouverez, vous pouvez taper sur Google Scott de Martinville, Au clair de la lune, et vous entendez le premier enregistrement jamais réalisé de la voix humaine, et c'est Scott de Martinville qui chante « Au clair de la lune ». C'est-à-dire, déjà c'est symbolique, le premier son jamais enregistré, c'est « Au clair de la lune », une comptine qui chante toute cette histoire-là de « prête-moi ta plume ». Enfin, il y a toute une symbolique comme ça extraordinaire, inconsciente, puisque le type savait, oui, il savait qu'il enregistrait de la voix, mais il n'imaginait pas, il ne voulait même pas que cette voix soit reproduite, il était contre ça. Et 150 ans après, l'histoire fait que cet homme a, dans l'histoire, gravé la première voix humaine.
Alors, pardonnez-moi, mais ce que vous nous racontez est passionnant. Ça pourrait être un essai, ça pourrait être une étude historique. Vous en faites un roman.
Ben oui, parce que cette histoire est très peu connue, n'a pas du tout été exploitée jamais. Des chercheurs sont... Moi, je ne suis pas chercheur, je suis écrivain, et donc il y a plein de trous. J'ai fait des recherches quand même, mais il y a plein de trous. Et donc, il faut les combler pour faire un récit cohérent, un récit fluide. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Je ne suis pas historien, et j'aime bien raconter des histoires. Et donc, m'emporter moi-même par cette histoire, comme je viens de le faire là, en l'espace de 3 minutes. Et j'ai eu l'impression, à un certain moment, d'avoir capté l'attention de la salle.
Mais parce que c'est passionnant,
oui,
simplement.
Et c'est ça que j'essaie de faire. Alors, oralement, je pense être un peu moins fort qu'à l'écrit, mais en principe à l'écrit c'est mon métier, c'est d'arriver à emporter les gens avec une histoire, et quand vous avez des trous, il faut les combler, et un historien face à ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'histoire de prise en main par les historiens, c'est qu'il y a trop de manques et ça ne fait pas sérieux, et moi j'ai rempli ces manques avec de la psychologie, mais des récits familiaux dont j'ai déduit de certains indices, à partir de certains indices.
Et parce que vous nous donnez effectivement, il y a 3 générations de Scott de Martinville, mm-hmm. Il y a 2 générations de Niepce,
c'est compliqué, voilà. c'est très compliqué, ça traverse l'histoire, les révolutions,
les monarchies, les régimes qui se succèdent, tout cela est une patte très riche. En même temps, la base, ce sont des données très précises. C'est vraiment une aventure intellectuel et artisanal, puisque c'était scientifique ou artisanal,
oui,
et puis votre propos est mieux traduit par une fiction.
C'est-à-dire que je m'amuse aussi à donner un genre historique, c'est-à-dire à prendre parfois le ton scientifique d'un historien, comme ça, en affirmant des choses qui sont totalement inventées. Et j'aime beaucoup utiliser ce système. C'est un langage comme un autre, le langage scientifique aussi a des prétentions qui s'avèrent 10 ans, 100 ans plus tard complètement fausses, avec des scientifiques qui ont affirmé sur un ton péremptoire des choses que tout le monde a avalées et qui se sont trouvées totalement fausses. Et donc le romancier peut se permettre, il est autorisé par la loi à se servir de ce langage-là pour faire croire. L'important, c'est d'arriver à rendre plausible une histoire. Et si elle est rendue plausible, c'est qu'elle participe aussi, dans ce cas-là, en tous les cas, à quelque chose qu'on pourrait appeler le roman national, c'est-à-dire une mythologie commune à tout le monde. Si tout le monde y croit, c'est que tout le monde a envie d'y croire. Et si tout le monde a envie d'y croire, c'est qu'on est dans cette religion de cette histoire. On est unis au sens religare. On est tous unis par cette histoire qui vibre en nous. De manière commune, et donc c'est la réussite du texte au sens biblique du terme, je dirais. Si tout le monde se reconnaît dans la Bible, c'est qu'il y a des mots, des phrases et des histoires qui vibrent en nous comme quelque chose de réel, qui correspond à une réalité dure.
Alors, vous avez dit que vous avez complété les trous. Étienne, tu t'es occupé d'un personnage mais connu aussi, de Gerald Gordon. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré cet individu au point de te lancer dans un volume de combien, 400 pages?
Je vais répondre à ça, mais j'aimerais d'abord donner suite à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça m'inspire plusieurs réflexions. La première à propos de Niepce qui demeure inconnu, ou l'autre qui demeure inconnu aussi. Je pense toujours à cette phrase de Lichtenberg que je traduis en ce moment, qui dit « Il y a ceux qui ont la gloire et ceux qui la méritent ». Eh bien, c'est une première réflexion. La deuxième, vous dites, c'est en quelle année que « Au clair de la lune » a été enregistré?
Alors, il y a eu plusieurs versions. C'est 57, 60, entre oui, 57 et 60.
C'est ça. Donc, 18, Franz Liszt était en vie. S'il avait fait jouer Franz Liszt, j'aurais été bien content. Voilà. Et puis, la troisième chose que je voudrais dire, ça rejoint ta question quand même. Vous avez noté qu'en effet, les photos des mouvements du cheval par Muybridge prouvent d'une certaine manière que tous les peintres ont tout faux. Or, si vous regardez un cheval de Géricault ou de Lacroix, c'est d'une vérité prodigieuse. Et au fond, c'est là le mystère qu'on pourrait reporter sur la fiction littéraire. C'est-à-dire la fiction peut être plus vraie que le vrai. Parce que ce que je voudrais dire à propos du sujet de mon roman, de Gordon, de Khartoum, de tout ça, je ne me souviens plus très bien comment j'ai rencontré ce personnage et ce drame, mais j'ai découvert que ce personnage avait tenu un journal. Et sachant que le siège de Khartoum s'est fini tragiquement par la prise de Khartoum et la mort de ce personnage, j'ai eu le sentiment très fort qu'on était justement au cœur d'une tragédie et qu'il y avait une tragédie à raconter par le roman. Mais j'aimerais insister sur le fait que je comprends très bien ce que vous voulez dire quand vous parlez de boucher les trous, mais ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu, en tout cas quand je l'ai écrit. C'est-à-dire,
oui, j'ai vu que tu as tiqué quand j'ai dit ça.
Oui, parce qu'il n'y a pas des faits avec des trous entre deux que le romancier va remplir. Le romancier revit ce qu'il a envie de dire et c'est une matière en fusion d'un bout à l'autre. Alors, les faits réels sont pris dans cette matière, ou je devrais dire, les faits, c'est la matière, et puis le roman, c'est le feu qui se nourrit de cette matière-là. Donc, il n'y a pas, encore une fois, d'un côté des faits bruts, et de l'autre, une fiction qui se broche là-dessus.
Quoi. Oui, certainement, ça doit être, vous avez raison, évidemment, mais ça doit être ma mauvaise habitude d'avoir écrit des livres autobiographiques où là, j'ai l'impression de connaître toute ma vie. Vous voyez, quand je raconte un morceau, il n'y a pas de trou, c'est un mauvais terme, mais il n'y a pas de trou. Et quand je suis face à la vie de quelqu'un d'autre, qui a vécu 100 ans avant, j'ai dans les faits, il y a des manques que j'ai l'impression d'avoir quand je raconte ma vie. Voilà, ça doit être ça, Alice.
Alors, Gordon t'a fasciné par ce journal ou... Parce que c'est très étrange de se plonger sur combien tu as fait, 400 pages, où tu fais revivre complètement cette époque avec de multiples points de vue, puisqu'il y a de nombreux personnages, mais tout est centré sur lui.
À partir du moment où ce personnage m'a fasciné, que je me suis mis à lire son journal, qui a été d'ailleurs traduit en français, et lu sa correspondance, et que je me suis mis à lire des livres sur le siège de Khartoum, sur l'histoire du Soudan, de l'Égypte, enfin tout ça, c'est nourri de connaissances les plus larges possibles. Et j'étais, ma fascination ne faisait qu'augmenter. C'est-à-dire que la connaissance qu'on cherche à prendre d'une époque dont on veut faire un roman, c'est vraiment... ce n'est pas dissociable de l'élan d'amour, si j'ose dire, qui vous pousse vers ces choses-là. On cherche à connaître parce qu'on aime. Après tout, les êtres qu'on aime, on veut toujours les connaître. Voilà, c'est une histoire que j'aime et que je veux connaître. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, davantage, je n'arrive pas beaucoup à le dire et je n'arriverai pas beaucoup non plus, c'est pas ce que tu attends de moi, à raconter l'histoire de A jusqu'à Z. Parce qu'au fond, je dis toujours aussi, si je pouvais raconter cette histoire maintenant avec des mots oraux et que j'en sois satisfait, que je sois satisfait de ce récit, ben je n'écrirai pas le livre. J'écris le livre parce que je sais que c'est la seule manière pour moi de raconter vraiment.
Alors, je ne te demande pas du tout de nous raconter en 3 minutes les 472 pages, j'ai regardé, de ton livre, mais quand même de peut-être nous situer la situation pour qu'on comprenne, parce qu'il y a l'arrivée de rebelles musulmans. Et il y a une lutte de civilisation.
Même de situer la situation, comme tu dis. Parce qu'encore une fois, les faits ne sont pas l'important dans un roman. Comme disait Karl Kraus, on n'écrit pas sur quelque chose, on écrit quelque chose. C'est très important comme différence entre le roman et l'essai, par exemple, le livre historique. Mais bon, je peux quand même, je ne veux pas faire ma mauvaise tête, je vais quand même ajouter au moins une chose, c'est qu'effectivement, ce général Gordon a été envoyé par l'Angleterre, qui était l'occupante effective de l'Égypte. L'Égypte était censée être indépendante, enfin indépendante de l'Empire ottoman, mais indépendante de tout autre pouvoir. En réalité, l'Angleterre l'occupait, mais au moment où dans le sud de l'Égypte, c'est-à-dire le Soudan actuel, des rebelles menés par un certain Mahdi, qui était une sorte de prophète illuminé, à partir de ce moment-là où ces rebelles se sont levés et ont menacé notamment la garnison anglaise qui se trouvait dans diverses villes, en particulier Khartoum, eh bien, les Anglais se sont dit qu'il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Mais l'intention première, c'était juste d'évacuer les garnisons, que ce soit des Anglais d'ailleurs ou des Égyptiens soudanais au service de l'Angleterre. Et puis, il y a eu un moment où Gordon s'est rendu compte que ça ne serait plus possible parce que toutes les villes alentour tombaient les unes après les autres et l'étau se resserrait sur Khartoum. Donc ça a été, d'une certaine manière, un combat contre ce qu'on appellerait aujourd'hui l'islamisme radical. Mais c'est une affaire très complexe, puisqu'en même temps, l'Angleterre pouvait être considérée à juste titre comme un colon, et même l'Égypte par les Soudanais comme un colon qu'il fallait chasser. Donc il y avait une dimension nationaliste aussi, et anticolonialiste, pourrait-on dire, au mouvement du Mahdi. Il y avait tout ça, la religion, le nationalisme, l'anticolonialisme. Et donc, personne n'était pur dans cette affaire, si on veut bien. Et Gordon, c'est un personnage qui, tout en étant général et en ordonnant donc de tuer ses ennemis, avait une sensibilité extrême et un idéal très élevé, voulait à tout prix éradiquer l'esclavage, notamment. Donc, il était dans une contradiction profonde. Et c'est tout cela qui m'a fasciné chez lui. Comment tenter de maintenir un idéal lorsque le réel vous assaille?
Et pour quelqu'un qui ne voulait pas résumer, c'est très bien, merci beaucoup. Parce qu'on voit l'entrelac des thèmes, et en même temps, c'est vrai que tu n'écris pas sur cette histoire, mais tu écris l'histoire. Alors je me tourne vers Metin Arditi. Tu utilises l'histoire comme lieu, mais pas les personnages. Et ce sont des personnages que tu as créé. Donc, c'est encore une autre démarche par rapport aux deux qu'on vient de voir, qui sont déjà différentes. Et là, c'est encore un autre cran un peu plus profond dans la fiction, peut-être.
Absolument. Oui. Disons, la composante romanesque est vraiment prépondérante. L'histoire est là comme cadre et nous offre des sujets de réflexion. Mais
tous les personnages sont fictifs. Il y en a un que je fais intervenir, mais que personne ne nomme et qui ne dit rien, qui écoute quand on lui parle, et son prénom est François. Voilà.
Un pur hasard.
Non, ce n'est pas un hasard, puisque mon histoire est ancrée dans le temps.
Ça commence en 2016.
Alors, l'histoire commence en 2016. Il y a un projet de double attentat le 29 juin 2016. La date n'est pas prise au hasard. C'est le jour de la Saint-Paul et Saint-Pierre, qui sont respectivement les patrons de Rome et du pape. Et on sait que ce jour-là, si le pape est à Rome, il célèbre la messe à Saint-Pierre. Et donc il y a un projet de double attentat. Le premier, au milieu de matinée, avant la célébration de la messe, à la basilique Saint-Pierre, dans le propos de créer un désordre monstre. Et le second, 2 minutes plus tard, à 100 mètres de là, à Casa Santa Marta, là où réside le pape, dans le propos de tuer le pape. Les exécutants de ces deux projets d'attentat, c'est la filière libyenne de Daesh, et les commanditaires, me direz-vous, eh bien non, les commanditaires, ce n'est pas l'État islamique, c'est un groupuscule d'extrême droite lié à la curie romaine, mené par un diable d'homme qui est le cardinal Fernandez Diaz. Et la terreur de ce groupuscule est de voir dans quelques années une Europe qui ne soit plus ni blanche ni chrétienne. Ce groupuscule mandate la filière libyenne de Daesh. C'est une alliance qui peut sembler contre nature. En réalité, chacun y trouve son compte. Daesh tue de l'infidèle et le groupuscule fait en quelque sorte coup double. Avec le massacre à la basilique Saint-Pierre, il est évident que l'opinion publique va basculer. On n'ose plus dire basculer, mais se déplacer encore plus vers l'extrême droite. Je ne peux pas dire basculer parce qu'aujourd'hui en Italie, elle y est. Et puis, évidemment, avec l'assassinat du pape, s'offrira l'occasion d'élire un nouveau pape qui certainement sera beaucoup plus à droite et aura, à l'égard des questions migratoires, des positions beaucoup plus dures que celles du pape actuel.
Alors, sans aller jusqu'à la page 399, que se passe-t-il en 1575 ?
Alors en 1575, c'est très important puisque c'est au fond le lien entre la période contemporaine et 1575, c'est Donatella, une jeune doctorante de l'Université de Venise, dont le sujet de thèse est la Scuola Grande del San Sepolcro, l'une des grandes confréries caritatives de la Venise du XVIe siècle. Et cette confrérie a, en l'espace de quelques jours, en février 1575, disparu corps et biens. Son siège social, un palais de marbre dû à Palladio, a été incendié. Son fondateur a été retrouvé mort flottant sur les eaux du Canal Grande. Son peintre de référence, Paolo Il Nano, retrouvé pendu. Et sa toile, je dirais, la toile qui incarnait cette confrérie, une noce de Cana d'environ 60 mètres carrés, due à Paolo Il Nano, a été volée. Et ces quelques jours ont été ensuite appelés par les historiens Carnaval noir. Voilà. Et alors, lorsque Donatella fait ses recherches, donne une interview à un journal gratuit, un journal local, Venezia Oggi, va souvent soit à la Marciana, à la bibliothèque de la place Saint-Marc, bibliothèque municipale de Venise, soit aux archivi, les archives, eh bien, elle attire l'attention sur elle d'un groupuscule d'extrême droite qui n'est autre que celui dont je parlais tout à l'heure, qui n'a aucun intérêt à ce que le lien soit fait entre ce que eux préparent et ce qui s'est passé au XVIe siècle et qui a donné lieu à Carnaval Noir. Et donc, lorsqu'elle s'approche trop de la vérité, la pauvre Donatella se brûle et on retrouve son corps dans les eaux glacées de la lagune un jour de janvier 2016.
On ne va pas parler de Genève, qui joue un petit rôle aussi.
Oui.
Mais ce qui est intriguant, c'est la manière dont tu utilises l'histoire pour dire, parce que tu écris, Étienne Barillet disait, on écrit quelque chose. Alors, tu écris quelque chose, mais sur quelque chose.
Alors, je ne sais pas si moi j'arrive à faire ce raisonnement. Moi, je raconte des histoires. Voilà.
Elle n'est pas anodine, ton histoire.
Hein?
Elle n'est pas anodine. Tu dis des choses.
Vraiment,
enfin, juste les premiers mots de ton introduction montrent que tu as un propos.
Mon propos est de raconter une histoire. Mon propos est de raconter une histoire à travers des personnages. Je ne passe pas, je dirais, 3 ou 4% de mon temps, plus que 3 ou 4% de mon temps, sur l'histoire elle-même. J'étudie beaucoup, ça me fait plaisir, c'est amusant. C'est toujours ce qu'on appelle aujourd'hui en bon français un win-win. Quand on passe du temps à faire de la recherche, on en ressort toujours ébloui. Mais moi, je passe mon temps à penser à mes personnages et à essayer de les comprendre, ce qui est la tâche la plus compliquée pour un romancier, je crois, c'est qu'il crée des personnages et puis ensuite il essaye de voir ce qu'il y a en eux. Et ça, c'est tout sauf évident. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on les comprend ou qu'on les connaît. On a des conjoints, des compagnons, des amis. On passe son temps à les découvrir. Personnage, c'est encore plus difficile puisqu'il ne s'exprime pas, sauf si l'on passe son temps à penser à lui et à imaginer, à échafauder des réactions, des hypothèses, à échanger avec les gens qui sont autour de soi. Est-ce que tu penses que là, il aurait fait comme si, il aurait dit cela, il serait parti, il serait venu, et puis petit à petit émerge une image, un personnage dont je rêve que le lecteur s'y retrouve, qu'il s'approprie le personnage, qu'à la fois à la fin de sa lecture, il ait compris et que pourtant ce personnage continue de lui échapper.
Et en même temps, tes personnages sont, même si tu les écoutes et que tu les vois surgir, tu as choisi un cardinal d'Amérique latine d'extrême droite.
Il est espagnol.
Il est espagnol,
oui,
voilà, excuse-moi.
Oui, je voulais dire, c'est oui. Donc ce voilà. Fameux cardinal.
Il est d'extrême droite, c'est un détail. Il est d'extrême droite, tu as Daesh, tu passes oui. Des messages quand même.
Ce cardinal, donc, il est grand, il est très sportif, il a à peu près 70 ans, il a des cheveux blancs, il est brillantissime. C'est la partie autobiographique du roman.
Je vais essayer de reposer ma question. tu as choisi.
Il ne m'invitera plus.
tu as des personnages qui transmettent. Ton roman dit quelque chose d'autre que l'histoire de tes personnages. Il y a un message par-dessous.
Absolument. Il y a un message. Il n'y a pas de jugement. Je tiens à le dire. N'est-ce pas ? Il y a un message puisque ce sont des groupements extrémistes qui agissent. Alors, il y a d'une part. Oui, il y a peut-être quand même un choix. Il y a des groupements extrémistes qui agissent et dont les actes seront contrecarrés par, et ça quand même, il faut le dire, par qui ? Par des latinistes, par des humanistes, par des professeurs d'université.
Mais tu ne peux pas dire trop sur la fin.
Je ne dis pas trop sur la fin, je dis juste que dans cette histoire, il y a l'obscurantisme, il y a aussi la lumière. Et cette lumière, elle vient de notre civilisation. Et ça, c'est très important. Mais lorsque je fais agir mes personnages que l'on pourrait qualifier d'extrémistes, qu'ils soient chrétiens, proches de l'Église ou dans l'Église, membres de la curie romaine, ou qu'ils soient musulmans, puisqu'il y a effectivement ces membres de la filière libyenne de Daesh, je ne les juge pas. Je décris leurs actes et j'essaye de comprendre ce qui les motive. Je ne les juge pas. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a des gens qui sont extrémistes et il y a des gens qui sauvent le monde par la culture, par la beauté, par la pensée.
Alors, par rapport à ça, Étienne, dans ton livre, tu ne juges pas non plus, tu montres les motivations des différents personnages. Il y a toute une variété de personnages, parce qu'il y a le général Gordon, il y a le Mahdi, et puis entre deux, il y a toute une humanité intéressante qui représente chaque fois quelque chose de différent, mais que tu as en partie pris dans l'histoire et en partie inventé.
Oui, bien sûr que je ne peux qu'applaudir quand Metin Arditi explique qu'il ne juge pas ses personnages. Je pense qu'on ne serait pas romancier si on jugeait ses personnages dans son livre. Vraiment, l'idée, c'est de les... Je dirais même pas de les faire parler, mais de les écouter, ce qui est encore une nuance différente. Alors, bien sûr... Oui, il y a toute une galerie de personnages différents. Chez moi, il y a un traître d'opérette, il y a un trafiquant pervers, il y a un consul d'une bonté infinie, il y a une jeune fille courageuse, il y a... Ah oui, c'est un personnage que je pourrais peut-être mentionner, même si j'ai horreur de raconter. Un des personnages... est fait à partir de réalité, mais n'est pas tout à fait historique. C'est un ancien communard. Ce qui est tout à fait historique, c'est que des anciens communards ont eu affaire avec la révolution mahdiste. Il y en a même un qui a rejoint les troupes du Mahdi, ce qui est encore plus fort, si j'ose dire, que ce que je raconte dans mon livre, où j'imagine simplement un personnage qui parle en faveur du Mahdi au nom de l'anticolonialisme et qui s'oppose au général Gordon. Et des moments pour moi importants sont des moments où Gordon et cet homme se disputent, puis discutent et échangent leur point de vue et, je ne dirais pas se rejoignent, mais disons, arrivent à se respecter, et peut-être même davantage. Donc... À ce moment-là, je dirais presque que le fait de ne pas juger se trouve comme thématisé même dans le roman. Hein, parce qu'au début, les personnages se jugent les uns les autres, et puis ensuite, ils sont plus nuancés les uns par rapport aux autres.
Quelle est la part de véracité historique dans, à part l'ancien communard, les autres sont... correspondent à des personnages que tu as rencontrés dans les archives ?
La plupart, oui, mais plusieurs d'entre eux, on en sait très peu historiquement, et là, peut-être pourrait-on dire qu'on bouche les trous, mais en tout cas, on tente de sentir ce qu'ils ont pu être en fonction du peu qu'on sait de ce qu'ils ont été. J'en profite pour revenir sur cette question de la fiction et de son rapport au réel, parce que ça me tient vraiment à cœur, puis ça tient à cœur de tous les romanciers, mais au fond, si la fiction était simplement une invention gratuite, hein, ça n'intéresserait au fond personne. Je pense toujours au mot inventé, mais dans le sens que l'histoire de l'art donnait à l'invention de la croix. Hein. Invention de la croix, c'est la découverte de la croix. Ben, la fiction, elle invente, mais en inventant, elle découvre quelque chose qui est le réel, finalement.
Elle révèle.
Elle révèle, oui, mais elle découvre aussi. Et à la limite, elle atteint à plus d'intensité de réel que le réel brut, si tant est que ça existe, d'ailleurs.
Je crois qu'il est aussi question dans la création d'appropriation, de désir d'appropriation. Et ce qu'on écrire, faire, c'est toujours muet par le désir de s'approprier les choses et le réel notamment. Qu'est-ce que c'est que le réel? Ben voilà, c'est l'objet de notre désir toujours. C'est-à-dire on a vraiment toujours envie de... Alors on dit comprendre, par exemple, c'est une autre façon de le dire. Comprendre les choses, les découvrir, c'est une autre façon de vouloir se les approprier finalement. Ça c'est le réflexe à la fois odieux de l'homme, le premier, celui que le nourrisson... accroche au sein pour le manger finalement. Il mange, il s'approprie pour le dévorer. Et l'écrivain bien civilisé, beaucoup plus vieux, il a une histoire, il a des personnages, des gens qui ont existé. Et il veut en faire quelque chose, mais c'est surtout, oui, c'est un ogre quoi par rapport à l'histoire, au réel. Il veut manger un morceau comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi ça, c'est un élan comme ça, un désir d'appropriation qui, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie d'ailleurs entre écrivains, parce qu'ils veulent se disputer le réel, et donc là, ça commence à chauffer dans ces cas-là.
En tout cas, ils ont tous envie qu'on dévore leurs livres, et là aussi, c'est l'appropriation par le lecteur du livre et la dévoration, le fameux livre qu'on mange dans l'Apocalypse, c'est quelque chose de très fort pour un écrivain.
Christophe Denner, vos personnages, vous les aimez?
Alors oui, c'est ça.
Mais
c'est
vous
bizarre.
Les jugez un petit peu.
Oui, moi je suis pas aussi frileux par rapport au jugement. Moi, je les juge. C'est-à-dire que je les juge. Il y a les bons et les mauvais, quoi. Il y a les bons et les méchants, quand même. Je pense pas qu'on puisse y échapper. Mais par contre, je suis souvent surpris de la réaction des autres. Parce que j'ai l'impression de leur donner leur chance, quand même, d'essayer de les comprendre et de les faire, ne serait-ce qu'en les faisant parler, en les faisant agir. Et dans la réaction de certains lecteurs, je suis parfois surpris qu'ils trouvent certains personnages odieux, détestables, etc. Alors que dans mon idée, c'était, je ne les vois pas comme ça. J'ai même, bon, là, il y a quelques escrocs, enfin des gens qui s'approprient aussi des inventions, notamment celle de Scott de Martinville, comme Edison, qui s'approprie.
Il se fait prendre aussi Niepce se fait prendre son associé le roule.
Voilà, enfin tout le monde roule tout le monde, quoi. Bon, et moi j'aime bien je les aime bien. J'aime beaucoup Edison, qui est pourtant un type qui a profité de toutes les inventions de tout le monde et qui a pas inventé grand chose, mais qui a inventé un système pour rendre toutes ces inventions efficientes. Enfin, et c'est un génie des affaires et je l'admire beaucoup pour ça je trouve très amusant qu'il soit passé pour un inventeur alors qu'il n'a rien inventé. Ça, je trouve ça aussi très, très génial.
Et quand vous racontez l'histoire de Niepce et de son frère, vous ne jugez pas, mais pourtant, il y en a un qui est vraiment une catastrophe ambulante.
Là, c'est une des choses merveilleuses que j'ai découvertes. C'est la relation entre Niepce, que tout le monde connaît, Nicéphore, qui s'appelait Joseph, en fait, et son frère aîné, Claude Niepce. Et alors c'est une correspondance qui existe, qui a été pas publiée parce qu'elle est que sur le net, elle est pléthorique, elle fait 1500 pages sur à peu près une quinzaine d'années. Quand ils ont été séparés, ils se sont beaucoup écrits, l'un à Chalon-sur-Saône et l'autre à Londres, et ils se sont écrits pendant plus de 10 ans. Et c'est ce que j'appelle une névrose familiale exemplaire entre deux frères qui font semblant de s'aimer, de se respecter, de s'aider les uns les autres, alors qu'ils sont morts de jalousie, surtout l'aîné, et morts de jalousie envers son petit frère, qui a découvert la photographie, alors que son grand frère n'y croyait pas du tout, et il est sur une autre invention. Et en fait, il est tellement... Je pense, enfin, c'est comme ça, alors là, c'est non pas mon travail d'écrivain, mais de fils de psychanalyste, qui essaie d'interpréter systématiquement les choses. Et je pense que le frère aîné, il en est mort d'ailleurs, il est devenu totalement névrosé à cause de ça, il était incapable de dire, d'exprimer sa jalousie envers son petit frère. Et c'est 1000 pages, 10 années de correspondance mensongère, où les deux se mentent l'un à l'autre en disant « tu es génial, bravo, c'est formidable ». Et quand la vérité doit éclater, parce qu'en fait, Nicéphore aide son grand frère avec beaucoup d'argent, il ruine le domaine familial pour permettre à son grand frère de mener son illusoire invention qui est celle du mouvement perpétuel. Et quand l'autre arrive, ils n'ont plus d'argent, il faut aller voir cette machine qui a inventé le mouvement perpétuel. Il arrive à Londres et il trouve son frère dans un état de physique totalement à l'article de la mort, quoi, finalement. Rongé, mangé par son propre mensonge et sa propre névrose. Ça méritait en soi une histoire. Et bon, bah, j'étais parti sur Scott de Martinville et leur rapport entre la photo et le son pour faire le cinéma, etc. Donc je me suis pas trop étendu, mais ça reste encore à faire ce prodigieux rapport tragique entre les deux. Et là, je juge pas, parce que l'autre est l'aîné est tellement malade, quoi, et c'est tellement triste que on a de la compassion pour les salauds, pour les menteurs qui sont victimes de leurs mensonges. Au bout d'un moment, on peut pas avoir les accabler encore plus que le malheur qu'ils ont créé eux-mêmes, quoi.
C'est la compassion pour les salauds qui te
j'ai aucune compassion pour les salauds. Tout simplement. J'écris en ne portant aucun jugement, mais je suis bien entendu ravi que mes lecteurs portent des jugements sur les personnages. Parce que ça veut dire que ces personnages sont réels. Parce que nous tous, nous portons des jugements dans la vie de tous les jours. On ne le fait pas dans le processus d'écriture, parce que si on le faisait, comme l'a dit très justement M. Berryer, il n'y aurait pas de roman, ça n'a aucun sens. En revanche, lorsqu'on pose le stylo, on redevient comme tout le monde et on porte des jugements. Donc mes personnages, tels qu'ils sont dans le livre, je n'ai pas porté de jugement sur eux, mais je serais extrêmement triste que mes lecteurs ne les aiment pas passionnément, ne les haïssent pas, parce que c'est véritablement à l'aune de ces émotions que l'on mesure leur réalité.
Est-ce que c'est vrai pour toi, Étienne ? C'est à l'aune de ces émotions qu'on mesure la réalité des personnages ? Si on pense en particulier à Khartoum.
Je parle des émotions des lecteurs.
Oui, ouais, oui, bah, parce que ce livre
d'Étienne Barillet... S'il n'y a pas d'émotion...
Non, mais il y en a. Ce livre est extraordinairement
oui, bien
riche.
Bien sûr.
Alors, quand je connaîtrai les réactions des lecteurs, je pourrais te répondre. Non, j'en connais une ou deux, mais pas tant que ça. Donc, je ne peux pas répondre tout à fait à cette question. Fondamentalement, un livre est un appel à la liberté du lecteur. Hein. Donc, en tout cas, un roman, mais même, pas seulement un roman, mais en particulier un roman. Et par conséquent, si le lecteur ne faisait aucun usage de cette liberté, donc restait au fond indifférent, moi j'aurais l'impression d'avoir raté mon affaire. Donc on se rejoint sur ce point-là.
Alors on va se tourner vers le lecteur. Il y a un micro qui peut se balader. Est-ce que vous avez des interventions, des questions, des remarques ? La parole peut être à vous dès maintenant. Qui la désire ? En attendant, je me tourne vers Christophe Donner pour lui demander si les émotions sont importantes par rapport à cette histoire que vous nous racontez. On commence avec ça commence bien avant Nicéphore, on est en avant, on est en train de voir un ballon s'élever pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette scène initiale qui est très forte, qui est historique, qui est connue, et puis vous la décrivez comme un reporter? Et ça m'a beaucoup intrigué, ce début de roman. L'histoire est là, voilà.
Oui, avec un grand l'histoire, H. elle est connue, oui. effectivement. Après...
Mais c'est l'histoire avec un grand H, c'est l'événement.
Voilà, oui, oui.
La première montgolfière, c'est quelque chose.
Oui, et puis qui se scratch, quoi, finalement. Enfin, c'est pas la première, c'en est oui, une autre. Mais, et puis la bagarre des types pour monter dedans et finalement pour mourir à l'intérieur. C'est ça, quoi. C'est oui. des inventeurs qui. C'est symbolique, c'est une présentation symbolique, un pré-générique, si on peut dire, cinématographiquement, d'un des propos du livre. Qui est de dire de montrer des inventeurs qui montent dans leur invention et qui en meurent, quoi. Donc c'est symbolique, voilà, c'est ça qui est, et effectivement cette histoire de transformer telle que je l'ai racontée raconte ça, et je pense que c'est le destin de beaucoup de créateurs que de mourir à l'intérieur de leur invention.
Mais vous avez voulu suggérer une émotion dès le départ.
Ben oui, j'aime bien avoir des émotions. C'est comme, je sais pas, un artisan qui produit un bijou. Il aime bien que la lumière rentre dedans et que les gens disent waouh, c'est beau, quoi. C'est assez naturel. Bon après, ou c'est moche, ou c'est effrayant, ou c'est plein de choses comme ça. Mais effectivement, créer des émotions et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai jeté ton livre par la fenêtre. C'est
ce livre
pas celui-là, non, des livres méchants que j'avais écrits. Et c'est assez.
Ça fait plaisir. Toi, là, oui. Monsieur.
Oui, j'aurais une question. Vous m'entendez? Et comment faites-vous pour retrouver vos personnages historiques? Parce que vous parlez du colonel Gordon, vous parlez de Scott de Martinville, si j'ai bien compris.
De Martinville, oui.
Est-ce par hasard que vous êtes tombé sur ces personnages, ou est-ce que vous avez fait des recherches qui étaient plus ou moins orientées? Comment faites-vous? Parce que ce n'est pas évident. Ni Sephora Niepce, on le connaît. Par contre, le colonel Gordon, là, dit franchement, moi, je n'étais pas du tout au courant. Encore moins de Scott de Martinville. Vous voyez, c'est un peu ma question.
J'ai dû mal m'exprimer au début, mal raconter comment j'étais tombé sur Scott de Martinville par hasard, quoi. D'abord son nom, découvrir qu'il y avait eu une machine qui s'était faite et qui était antérieure au phonographe, qui s'appelait le phonotographe et qui était l'ancêtre du phonographe. Et après, bon, bah, y a des documents, il y a quand même des traces, notamment justement ces phonotogrammes qui sont toujours à la Société d'encouragement de l'industrie à Paris et qui sont des monceaux d'enregistrements sonores comme ça. Après, lui, il a écrit un livre. Par exemple, il a écrit un livre sur Edison pour expliquer que l'invention d'Edison ne servait à rien et pour dire qu'il était, lui, l'inventeur de tout ça. Ça lui était facile puisqu'il avait été typographe, donc il savait ce que c'était qu'un livre, mais c'est un livre à compte d'auteur aussi. Et puis il y a des archives à la Bibliothèque nationale, et puis il y a des gens à l'époque qui ont quand même parlé de son invention, et puis il l'a vendu, son invention. Il y a tout ce que je raconte dans le livre. Donc tout ça, il y a des traces quand même. Il suffit de les chercher. Il y a un truc qui s'appelle la Bibliothèque nationale et où il y a beaucoup de choses. Et puis maintenant, sur le net, il y a beaucoup de choses aussi. Et voilà. Après, c'est des rebonds, comme on dit d'ailleurs sur le site de la BM, c'est rebondir. Alors, vous avez un sujet, donc vous rebondissez d'un auteur à l'autre, d'un sujet à l'autre, et vous tombez sur des perles. On peut y passer, c'est vertigineux, quoi.
Métine Arditi doit nous quitter. Juste une seconde, excuse-moi. Métine Arditi doit nous quitter dans 5 minutes. Donc, si vous avez des questions pour lui, c'est maintenant. Et puis, on va revenir. Je reviens à toi. Non, non, vas-y. Étienne. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant.
Ah. Excusez-moi. Non, c'était juste pour répondre aussi à monsieur comment est-ce que je suis tombé sur Gordon. Là aussi, j'ai envie de dire par hasard, mais c'est le hasard objectif d'André Breton. Disons, il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur 1000 choses dont je n'ai pas pensé à faire un roman, mais là, ce personnage, ce destin, ce cadre m'ont saisi et je me suis mis à lire.
Alors, avant que Métine Arditi nous quitte, je voulais citer Étienne Barillet qui termine la note de son livre. Et quel écrivain se mettrait à sa table de travail s'il ne croyait pas, avec Victor Hugo et son tombeau de Théophile Gautier, qu'à force de chercher le beau, on peut trouver le vrai? Et je me demande si ça te parle, cette citation.
À force de chercher le beau...
Autrement dit, tu utilises l'histoire
est-ce que j'ose retourner Vas-y. L'affirmation. À force, pardonnez-moi. Oui, non, mais je voudrais juste réagir.
Va, découvre le vrai, toi qui suis trouvé le beau.
Oui. Moi, si j'ose, je retourne l'affirmation et je dis qu'à force de chercher le vrai, on arrive au beau. Voilà, on aboutit au beau.
Alors, ma question,
le vrai a une valeur intrinsèque.
C'est pour ça que ma question était intentionnelle, parce que tu utilises l'histoire comme cadre pour poser des choses fictives qui doivent être à la fois vraies et belles.
J'utilise l'histoire comme cadre pour essayer de comprendre des personnages. Et la seule chose qui importe dans la compréhension de ces personnages, c'est d'arriver, si je reprends une métaphore que vous avez utilisée tout à l'heure, qui est celle du dévoilement, n'est-ce pas ? Qui est vraiment, c'est une métaphore très très importante dans tout ce qui est l'étude de la Kabbale. C'est qu'on approche la vérité par un dévoilement successif de voiles et c'est l'apocalypse, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est le dévoilement. Et ce processus-là nous amène, s'il est poursuivi avec suffisamment, je dirais, d'assiduité, de chance, un petit peu de savoir-faire, nous amène au cœur des personnages. Et à partir de là, je crois que le fait d'être dans le vrai de ces personnages a en soi une valeur intrinsèque, a en soi une esthétique.
Je peux vous raconter une anecdote.
Alors, on va prendre congé de Métine qui doit s'en aller. Merci beaucoup. Une anecdote.
Oui, on va profiter qu'il est parti parce qu'on sent qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Non, mais par rapport à la... Ah non, c'est bon. Scott de Martinville, il y a des héritiers de Scott de Martinville. Il y a des, et notamment son arrière-petit-fils qui est rien moins qu'amiral, qui a été amiral et qui a commandé un sous-marin atomique, enfin qui commandait un sous-marin atomique sous Pompidou, je crois. Donc je l'appelle au téléphone pour savoir s'il a des je lui dis que je veux écrire un livre sur Scott de Martinville, son ancêtre, et je le repère parce que j'arrive chez lui, au téléphone, et il semble que c'est lui l'archiviste de la famille. Bon. Et donc je lui dis, est-ce que vous avez des documents ? Oui, on avait un phonographe, mais on nous l'a volé. Bon, hein, c'est dommage. Et puis on a quelque chose, j'ai son livre de raison, mais il y a des secrets de famille dedans, je ne peux pas vous le donner. Des secrets de famille qui datent d'un siècle et demi, ça m'a fait rire. Mais il y a deux choses. C'est le mot livre de raison, une expression que je ne connaissais pas. Je trouve très belle. C'est un livre, un carnet intime, je ne sais pas. Enfin, livre de raison, j'ai trouvé ça très beau. Et puis, il me parle aussi des relations avec son père qui étaient conflictuelles. Et finalement, ça m'a suffi. Je savais qu'il y avait un livre de raison, je savais qu'il avait des problèmes avec son père, et donc moi j'ai écrit le livre de raison, donc j'ai pas eu besoin d'autre chose. Et voilà, il y a parfois des trucs comme ça, et d'entendre la voix de cet homme qui était devenu... C'est aussi pas rien de savoir que ce Scott de Martinville qui s'est battu, qui a été un autodidacte, aristocrate ruiné, etc., tout ce complexe qui pouvait nourrir en étant ouvrier, typographe, alors que son grand-père avait été un aristocrate, tout ce passif-là. Et savoir que son arrière-petit-fils est amiral, ça donne une lignée comme ça familiale assez prodigieuse, quoi. Et c'est des indices comme ça parfois qui suffisent. On n'a pas besoin de. Et parfois c'est écrasant quand on en a trop, puisqu'on en a trop, ça a déjà été fait. Pourquoi ? Et donc une petite graine, quoi, suffit à faire des choses.
Si vous n'avez pas d'autres, je crois qu'il est mort.
Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là en remerciant les deux rescapés. Merci beaucoup. Et vous allez les retrouver sous la tente pour la dédicace.